Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny Best in the World, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, deux fois semaine on est Benny par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny. Benny is money, ay. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des cons, ay. C'est la révision des cons, ay.
Studio B de C'est juste de la lutte, c'est la super révision des comptes du vendredi 15 octobre 2021. Comment ça va tout le monde? Je suis Benny's Money. Merci beaucoup d'avoir téléchargé ce podcast. Bienvenue. Ce soir, très grosse édition de la super révision parce qu'on a 4h30. Eh oui, 4h30 de lutte à réviser ensemble. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ce soir, ça va être une édition un peu particulière. Oui, on va mettre les bons moments dans les actifs, les moins bons et mauvais moments dans les passifs. On va noter tous les matchs sur 5$. Mais on va y aller quand même assez rondement parce qu'il y a beaucoup de stock, beaucoup de segments, beaucoup de matchs. Et si j'avais l'intention de faire seulement Rampage, avec ce qui s'est passé dans le buy-in, je n'ai pas eu le choix que d'inclure tout ça dans le package. Donc, vous aurez une révision complète de tout ce qui s'est passé ce vendredi, autant sur FS1, sur TSN, l'application pour Rampage ici au Canada, et ce qui s'est passé aussi sur YouTube durant le buy-in. Alors, on va en parler au cours de cette émission. Si vous nous regardez en vidéo, j'ai séparé les deux vidéos. Donc, dans cette première partie, vous aurez exclusivement SmackDown. Et dans la seconde partie, vous aurez Rampage. Et sinon, si vous nous écoutez en podcast, tout ça va être dans un beau, gros package. Allons-y maintenant avec la révision de SmackDown Live, le Super Size Edition, en direct du Toyota Arena à Ontario, Californie. Ben oui, ça a l'air qu'il y a une ville en Californie qui s'appelle la ville Ontario. L'épisode 1156 de SmackDown Live qui commence parce que c'est la guerre du vendredi, vous le savez aujourd'hui. 2h30 de show pour avoir un petit 30 minutes qui overlap avec le Rampage, créer de la guerre, Fox qui présente le baseball. SmackDown qui se retrouve sur FS1. Oh non, les codes d'écoute. Oh non, Alors, c'est la guerre ce soir. Et ça commence avec la promo de Edge. Ouais, et Edge qui, finalement, entre seul dans le ring, s'assoit sur une petite chaise. Très grunky. Vient là pour grunker la foule. La foule est très grunky aussi. On sent qu'il y a quelque chose de spécial. Mais Edge, finalement, n'a qu'une promo pour nous dire que, you're out d'affronter Seth Rollins à Hell in a Cell, régler ce qui dure depuis 7 ans. Il a eu le malheur de sous-estimer Seth Rollins. Seth Rollins l'avait sous-estimé à SummerSlam, lui l'a sous-estimé au Madison Square Garden. Eh bien, il admet que Seth n'est pas Edge Light. Donc, c'était une erreur de le sous-estimer, parce que de le sous-estimer, Seth, c'était un peu comme se sous-estimer lui-même. Les deux sont pareils. Les deux, c'est des vrais diables. Et les deux vont en finir à Hell in a Cell. Et Edge a promis à Seth Rollins de laisser une cicatrice inguérissable. C'est un bon mot, je sais pas. Mais en tout cas, une cicatrice éternelle sur son âme. Ben voilà. Alors, ça partait. C'était pas une mauvaise promo, c'est une bonne promo de Edge. Edge qui fait toujours des bonnes promos. Et le seul point négatif que je dirais, pardon, par rapport à cette promo, c'est qu'il n'y avait pas d'interaction d'autre. Ça ne menait pas à rien, sauf nous dire qu'il va affronter Seth Rollins à Hell in a Cell. Alors, ouais, c'est une belle promo. J'ai mis ça dans la colonne des actifs, mais c'est ça. ça va sûrement nous amener à quelque chose qui va être un peu plus tard. Je révèle un punch, peut-être un passif qui s'en vient. Mais bon, peu importe. Passons maintenant au premier match de la soirée. C'était la grande finale SmackDown ou demi-finale du tournoi de King of the Ring. Donc, le côté SmackDown qui en venait à son match ultime entre Finn Balor et Sami Zayn. On le sait, l'enjeu est grand. Se rendre jusqu'en Arabie Saoudite pour éventuellement mettre la main sur la couronne de roi de la WWE. Eh bien, quelle surprise que d'apprendre que ce n'est pas Sami Zayn qui va se rendre en Arabie Saoudite. Ben non, quelle surprise. Eh ben non. Malheureusement, dans un quand même match correct, un bon match, 11 minutes 25 de combat, assez dominé de temps en temps, de part et d'autre. Sami a eu ses bons moments, nous a fait croire à quelques moments que ça allait être lui. Malheureusement, s'est fait prendre par Jessica, tenter un tombé avec les pieds dans les cordes, s'est fait prendre. A esquivé un premier coup de grâce. Mais la deuxième fois, la tempête était trop intense pour Sami, qui n'a pas été capable de faire son Helluva Kick et qui a subi le coup de grâce permettant à Finn Balor de l'emporter. Donc, match correct. J'ai donné la note de 3,25 sur 5. Pas le match de la soirée. Un bon match. Malheureusement, ben oui, on savait c'était quoi le résultat parce qu'on savait que Sami Zayn ne pouvait pas aller en Arabie Saoudite. Alors, quelle surprise que de voir Finn Balor passé à la grande finale. Il affrontera Xavier Woods ou Jinder Mahal. Je mettrai mon 2$ sur Jinder Mahal. Je pense pas que Xavier... Ça regarde mal, en tout cas. J'ai pas l'impression qu'on va nous donner Xavier Woods en finale. Je sais pas, ça... Un drôle de feeling. C'est un feeling, mais bon, j'ai pas l'impression que Xavier Woods va passer. Segment suivant, parce que c'était supposé être un match entre Naomi et Sonya Deville, eh bien, c'est pas tout à fait ce qu'on a eu. Parce que Sonya Deville, là, la petite ratoureuse, elle avait une autre carte dans sa poche. Et quand je dis carte, c'est qu'elle a sorti Shayna Baszler, et oui. Alors, elle a décidé de faire un match entre elle et Naomi, mais elle avait une partenaire en Shayna Baszler. Donc, c'était un match handicap qui a duré grosso modo 2 minutes. Naomi qui portait le pantalon et la brassière. Encore une fois, on met en valeur les femmes de la lutte, qui s'habillent comme des combattantes, des femmes respectables. C'est de toute beauté. Alors, Sonya s'est servie de Shayna pour retenir Naomi, très serrée, et donner des petits coups, pif pouf. Naomi a tenté de s'en sortir, ça n'a pas fonctionné. Finalement, elle a reçu un running knee de la part de Sonya Deville. Et Baszler a fini le travail avec un kirifou de clutch avant que Sonya fasse le tomber avec sa botte. J'ai donné 1$ sur 5 à ce match. C'est vraiment une histoire qui ne fait aucun sens. Ça sort de nulle part un peu. On sait pas pourquoi, on sait pas où ça s'en va. J'ai le goût de voir Naomi avec la Bloodline. Et puis là, ben, toute cette histoire-là ne fonctionne absolument pas. Shayna Baszler qui s'associe maintenant avec Sonya Deville. Peut-être que ce sera intéressant. Peut-être que... C'est... Je sais pas. Peut-être. Bon, je lance un peut-être. Mais avec Naomi, je trouve pas ça super le fun. Bon. Alors, ce match de 2 minutes ne mérite qu'un maigre dollar sur 5. Parlant de trucs que j'ai pas beaucoup aimé, c'est que je vous avais parlé de la promo tantôt de Edge. Eh bien, Seth Rollins, qui avait regardé la promo de Edge en coulisses, eh bien, a décidé de sortir lui aussi pour faire une promo. Ça leur tentait pas de faire tout ça dans le même segment, de donner des chances à d'autres personnes de se mettre en valeur, au lieu d'avoir deux fois essentiellement la même promo, mais dite dans deux tons différents pour nous vendre un match. On était dans l'édition Supersized, mais ce qu'on a compris, c'est qu'on allait juste supersize ce qu'on fait exactement comme d'habitude et qu'on n'allait rien voir de nouveau, qu'on n'allait pas avoir de segments différents, pas de combats qu'on n'avait pas déjà vus avant. Alors malheureusement, Seth Rollins a fait une promo pour nous dire que ben, il avait très hâte d'affronter Edge à Hell in a Cell, qui était aucunement intimidé. Lui qui portait le veston, le complet style Joker de jeu de cartes, tellement que la foule l'a traité de Harley Quinn pendant une bonne partie de sa promo. Mais il a dit donc qu'il avait l'avantage, puisque Edge l'a traité, ben, en fait, a dit qu'il n'était pas Edge Light. Donc, ça veut dire que Rollins a un avantage, surtout mental, face à Edge, qui ne doit pas être 100% pour dire des affaires de même. Et Colin, Edge n'a pas été aussi souvent que Rollins dans un Hell in a Cell. On sait que Hell in a Cell, Rollins, c'est un traumatisme pour tout le monde qui regarde, parce qu'on sait que c'est là que son personnage a complètement pris du champ. Alors, c'est ce que Rollins lui dit. Ça l'a traumatisé lui aussi, mais il se sent confiant. Il est plus fort. De quoi, on ne sait pas trop. Mais Seth est prêt à affronter Edge et ça s'est terminé comme ça. Eh oui, il n'y avait pas plus, il n'y avait pas moins. C'était juste pour faire des promos et passer la première heure. Deuxième heure qui commence de SmackDown. Et on a le match de finale du tournoi de Queen's Crown. Donc, c'est Zelina Vega et Carmella qui s'affrontent. Et là, avant le match, en coulisses, les deux se sont dit « Hey, on va avoir un bon match. » Un match. T'sais, il y a eu une certaine alliance là, les dernières semaines entre Zelina Vega, pour aucune raison, et Carmella. Donc, Zelina va dire « Hey, on va avoir un bon match. Porte pas ton masque aujourd'hui. Ça sert à rien. On va avoir un vrai beau match de lutte. » Fait que là, Carmella était toute contente. « Ah, oh, mon beau visage, merci, tu vas pas l'abîmer. Ah, oh, c'est gentil. » Alors, le match a commencé. Les deux, justement, essayaient juste de se faire des prises, puis tout. Puis là, ben, on était pendant une bonne minute à Carmella qui essayait de faire un armbar à Zelina Vega. À un moment donné, ben, l'action a repris et là, pouf, Carmella, elle a donné un super kick à Zelina d'en face. Ben là, elle a dit « Oh non, je m'excuse, je voulais pas. C'est parce que j'ai oublié notre entente, puis tout. » Alors là, Zelina, très fâchée, boum, elle s'est garochée sur Carmella et là, elle s'est mise à y frapper d'en face. Mais là, Carmella était très, très confuse de ça. Elle était comme « Non, non, je voulais pas. Ah, oh, ah, non, non, je veux pas. » Fait que là, elle a roulé en bas du ring et là, ben, elle a demandé à ses assistantes de lui mettre son masque. Mais là, l'arbitre, il a compté à l'extérieur, 1, 2. Fait que là, il était comme, là, elle s'est retournée de l'arbitre. Non, non, temps d'arrêt, je veux juste mettre mon masque, temps d'arrêt. Et là, elle se retourne, boum. C'est Liv Morgan qui avait son masque. Alors là, Carmella était très embêtée. Elle dit, qu'est-ce que je fais? Oh non. Là, Liv Morgan a fait mine de lui sacrer un coup de poing. Et Carmella, ça lui a fait très peur. Elle est retournée dans le ring. Et elle s'est fait battre par un roll-up de Zelina Vega qui s'en va directement à Riyad, en Arabie Saoudite, essayer de gagner une couronne. Alors, bravo à Zelina dans un match de 2 minutes 40 qui est de parfaitement ridicule. Donc, toute ma prédiction de Carmella qui allait devenir la reine de la beauté, tout ça a pris le champ. Alors, on se demande, est-ce que ce sera contre Doudrop? Est-ce que ce sera contre Shayna Baszler? Mais j'ai bien hâte de voir comment Zelina Vega va être habillée. La grandeur de son t-shirt et tout. Alors, j'espère qu'elle est prête. Malheureusement, je ne pense pas qu'Aleister Black puisse l'accompagner là-bas. Ça me surprendrait que ça arrive. 1$ sur 5 à ce match que j'ai mis dans la colonne des passifs. Parce que les matchs ridicules pour les femmes... Ça fera. Happy Talk avec Happy Corbin. Comme si les segments ridicules étaient simplement réservés aux femmes. Mais non, on a encore d'autres segments ridicules. Et là, je vous donne la blague du jour de Madcap Moss, l'acolyte de Happy Corbin. Il y a une poule qui pondait des œufs, puis un jour, elle a arrêté de pondre. Alors, elle ne savait pas trop, ça a été long, là, elle ne comprenait pas. T'es allé voir un thérapeute. Et finalement, le thérapeute lui a dit qu'elle faisait une crise existentielle. Existentielle, dans le sens de œuf. Là, il était parti sur des jokes et Rick Boogs est arrivé pour jouer la toune de Nakamura, pour dire qu'il voulait rocker la note avec Nakamura. Alors, Nakamura a fait son entrée. Et là, ils ont fait le tour du ring en rockant la note. Tour du ring. Et ils ont quitté par la rampe. un peu à la manière de SummerSlam, où Nakamura, finalement, peut dire qu'il est obsédé par son entrée, mais c'est tout ce qu'il fait. Il rentre, fait son entrée, quitte. Et là, quand il quitte, Street Profits arrive. Et là, ben, Rick Boogs change de tonalité et se met à jouer la toune des Street Profits. Et ça, c'est l'utilisation de Nakamura. Alors, bravo. Ça met la table à ce match. C'est aussi l'utilisation d'Happy Corbin, finalement. Alors, bravo. Hein? Oh là là, c'est de la bonne télé. C'est de la bonne télé. Une chance qu'on n'a pas de McAfee pour s'émoustiller et faire comme si c'était fantastique ce qu'on regardait. Ça met la table au match entre Street Profits et les Usos qui s'affrontent dans un street fight où les titres par équipe sont à l'enjeu. Ben heureusement, hein, parce que sinon, ça serait plate d'avoir un autre match sans raison entre des Usos et Street Profits. Malheureusement pour Street Profits, c'est une autre défaite. Ils n'arrivent toujours pas à battre les Usos quand les titres sont en jeu. Street fight où personne n'est habillé en jeans. Alors déjà là, ça partait assez mal. Ça mériterait une contravention de style. Les Usos l'ont emporté en 11 minutes. Il y a eu quelques bons segments. Encore une fois, le Top Icon Hero de la part de Montez Ford par-dessus le poteau du coin. Donc, il y a une compétition présentement entre Ricochet et Montez Ford, à savoir qui est capable de faire le plus beau Top Icon par-dessus le coin. Il y a eu un hommage aux Dudley Boys, les Street Profits, qui ont fait un peu à la manière de Baba et de Devon pour sortir les tables. C'était beau, mais malheureusement, ils ont reçu des suicide dives des Usos. Un peu approximatives, les suicide dives. Mais c'était quand même beau. De retour dans le ring, les Usos ont joué au baseball avec des kendo sticks et se sont servis d'Angelo Dawkins comme d'une balle. Alors, tu voyais mon Jay plus à l'aise au baseball que Jimmy. Donc, prenait son temps, s'installait. Bang! Donc, on n'était pas loin de Los Angeles. C'est une belle référence, un beau clin d'œil aux Dodgers qui vont, eux, affronter les Braves en finale. Ça vous intéresse pas? Comment ça, ça vous intéresse pas le baseball? Hey, vous auriez dû, parce qu'à Fox, ça devait être pas mal meilleur d'écouter les Red Sox affronter les Astros. Mais bon, les Usos ont terminé le travail, même si Montez tentait, à lui tout seul, de sauver son équipe. C'est sans succès. Et Dawkins, à un moment donné, s'est retrouvé seul parce que Montez a été propulsé au travers d'une table par Jey Uso. Donc, les Usos ont terminé le travail. Double super kick d'en face d'Angelo et suivi de double super Uso splash pour la victoire. Donc, c'est un bon match entre les deux équipes, mais pas un excellent match en termes de street fight, un peu ordinaire. J'ai donné la note de 3,25 sur 5 à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. C'est un bon match entre les deux équipes. Ça reste qu'à un moment donné, c'est un peu tanné de voir ce match-up qui arrive très souvent. Maintenant, passons à la dernière demi-heure de SmackDown et cette demi-heure n'avait aucune pause commerciale, voilà. Donc, on nous l'a dit, on nous l'a répété, on nous l'a dit, on nous l'a répété. On nous a répété, pas de pause commerciale, pas de pause commerciale. Mais ne vous inquiétez pas, ça a été la même chose à Rampage et même dans le buy-in de Rampage. C'était comme, le premier match de la carte, il n'y aura pas de pause commerciale, pas de pause commerciale. Alors, c'est vraiment un supplice incroyable, les pauses commerciales. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça. Alors, on était très fiers de ne pas faire de pause commerciale. Je pense que en tout cas, dans le kayfabe, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est les assurances là, qui commanditent SmackDown qui ont payé pour pas qu'il y ait de pub. Alors, bravo à eux. Bravo. Bravo. Je ne ferai pas de pub, parce qu'on ne ferait pas de pub. Pas de pub. Alors, le premier match de cette demi-heure supersized, toujours à FS1. Becky Lynch qui affronte Sasha Banks. Eh bien oui, dans un match, ça faisait quand même longtemps, les deux, qu'elles ne s'étaient pas affrontées. 2019. Et il faut savoir que Becky Lynch avait une séquence assez incroyable. Donc, elle n'avait pas perdu depuis Survivor Series en 2019 dans un match triple menace avec Shayna Baszler, championne d'NXT à l'époque. Ensuite, elle n'avait pas perdu elle-même dans un match 1 contre 1 depuis Clash of Champions, où elle avait perdu par disqualification face à Sasha Banks. Elle n'avait pas perdu non plus en match 1 contre 1 clean depuis Money in the Bank 2019. Souvenez-vous, elle avait affronté Lacey Evans. Elle avait défendu son titre de Raw, mais avait perdu le titre de SmackDown par la suite contre Charlotte. Donc, elle n'avait pas perdu en simple, techniquement, à 1 contre 1 depuis ça. Mais encore plus impressionnant, ça faisait encore plus longtemps qu'elle n'avait pas perdu en simple à SmackDown ou à Raw. Et je ne vous dis pas tout de suite, pensez-y, ma question quiz, si vous regardez la vidéo, mettez sur pause, dites-moi qui était la dernière personne à l'avoir battu Becky Lynch dans un match à SmackDown ou à Raw. Je vous laisse le temps d'y penser, je vous donne la réponse à la fin de cette révision. C'est assez incroyable. Ben, je vous le donne en mille. Elle a perdu ce soir. Ben oui, pauvre Becky Lynch, perdu ce soir dans un match assez fou. 17 minutes 45. On voit ça très rarement parce que c'est 17 minutes 45. Ça, c'est le double de tout le temps qui a été alloué pour tout le tournoi féminin de la Queen's Crown. Alors, c'est rare qu'on voit ça des matchs féminins qui durent plus que 3 minutes. Eh bien, Becky Lynch et Sasha Banks, on leur a donné énormément de temps pour qu'elles puissent nous montrer la panoplie de leur éventail de moves. Un match, un match digne de pay-per-view, malheureusement avec pas l'enjeu, malheureusement à quelques jours, 6 jours du vrai affrontement en Arabie Saoudite. C'est un peu dommage, dans un sens, qu'on nous ait donné tout de suite ce match-là. C'est un peu dommage qu'on nous ait donné ce match-là sans aucun enjeu non plus. En plus, on nous a dit que Bianca Belair, elle qui était aux commentaires, allait affronter Charlotte, elle, pour le titre de Raw, ce lundi. Fait que je comprends qu'on n'ait pas voulu remettre le titre en jeu aussi rapidement ou aussi collé, mais c'est un peu dommage d'avoir un match aussi gros et qu'il n'y ait pas d'enjeu. C'est un peu gaspillé, à mon sens. Et le fait que Sasha Banks et Becky reçoivent autant de temps. Il y a un côté que c'est le fun, il y a un côté que c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir qu'elles réalisent, même elles, qu'elles ne pourront pas seulement se battre entre Four Horsewomen et une par-ci, une par-là. Il va falloir qu'elles acceptent, ou enfin qu'elles fassent du lobby pour que le reste de la division féminine reçoive un petit peu d'attention, parce que s'ils finissent par être juste 4 à se battre entre elles, ça va pas être un grand succès. Mais c'était un très bon match. La foule était hyper dedans. C'est un peu bizarre parce que c'est deux heels qui s'affrontent. Sasha Banks, je la regardais lutter. Aurait fallu savoir. C'est pas du tout une heel dans le ring. Elle se bat complètement babyface. Fait les moves d'Eddie Guerrero. Joue avec la foule. Becky Lynch, la même affaire. Un peu plus heel que les deux. Mais c'était presque deux babyface qui s'affrontaient. La foule criait autant pour Becky, autant pour Sasha Banks. Donc, ça s'est terminé au moment où il y a eu une altercation un peu plus tôt entre Becky Lynch et Sasha qui s'est retrouvée près de Belair. Sasha s'est tassée et Becky Lynch est arrivée à toute vitesse avec un coup d'avant-bras qui a frappé Bianca. Donc, un peu plus tard, ben là, l'action est retournée dans le ring. Et là, au moment où Becky, ça a été un peu mal joué, malheureusement, mais Becky s'est retrouvée un peu dans les cordes. La face proche, mais c'était un peu confus. Finalement, son bras était vers le tablier. Et Bianca, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, il a sacré un gros coup de fouette avec ses cheveux. Honnêtement, il fallait le savoir parce que Becky a pratiquement rien vendu. Mais ça a été suffisant pour permettre à Sasha Banks d'appliquer le bank statement et d'aller chercher la victoire. Donc, c'était un bon match, un 3,75$ sur 5. Encore une fois, pas le match le nécessaire à SmackDown. On aurait pu garder ça pour plus tard, mais puisque les deux ne seront pas sur le même brand, ce match-là n'aura pas lieu, sinon qu'à Survivor Series, ou qu'on trouvera une autre excuse. Puis finalement, ce match-là va avoir lieu. Donc, c'était un peu ça qui est dommage, mais Que voulez-vous? Pour la guerre des codes d'écoute, ça prenait un gros match. Et c'est le match qu'on a trouvé. Parce que, et là, c'est là qu'il y a un gros bémol, puis il y a un gros... Adam Pearce est arrivé. Là, on n'a pas de pause publicitaire. Donc, Adam Pearce est arrivé, puis il a dit « Tossez-vous tout le monde, là. Sacrez votre camp. On rentre des tables. On rentre une table, on rentre des chaises. Let's go. Sacrez votre camp. Les femmes, vous venez de vous battre pendant 20 minutes. Là, sacrez votre camp. Je suis tanné. Bye, bye. Sacrez votre camp. Là, il faut que je fasse tout ça. » Pour nous donner la signature de contrat entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et ça a été une entrée de Roman Reigns. Ça a été une entrée de Brock Lesnar. Une entrée les deux fois, c'est comme on rentre. On prend énormément de temps. Finalement, on a donné le contrat à Roman Reigns. Roman Reigns l'a fait lire par Paul Heyman. Qu'est-ce qu'il y avait sur le dit contrat? On ne le saura jamais. Probablement rien. Paul Heyman a tout lu ça. Il a dit « C'est bien beau. C'est parfait. Ah, c'est excellent. C'est beau. C'est beau, beau. C'est excellent. C'est tout ce que tu avais demandé, mon chef de tribu. Alors, tu peux signer. » Alors, Roman prend le temps de signer. Donne la feuille à Adam Pearce. Adam Pearce donne ça à Brock Lesnar. Brock Lesnar ne garde rien. Pif, pif, pouf. Il signe ça n'importe comment. De toute façon, il a vu John Cena faire. John Cena a signé ça n'importe comment. Il se dit, bah, on s'en sac. Pogne la feuille, pogne le petit portfolio, clac! Jette ça sur la table. Alors Roman lui dit à Brock Lesnar, t'es un vrai fermier imbécile, toi. Tu signes un contrat, t'as même pas rien lu. Pouf, pouf, tu signes ça. Maudit que t'es tata. Alors Brock, lui, répond du tac au tac. Roman. J'avais déjà tout lu ça avec mon avocat ce matin, mon avocat Paul Heyman. Et Brock Lesnar quitte le ring. Oh, mais le Brock, non, puis le Paul, il est comme non. Puis le Roman. Ben, c'était ça le punch. C'était ça le punch de SmackDown. Tout au complet. Tout ça, les pas de pub, la gros moment Brock Lesnar, c'était ça. C'était juste ça. C'était que ça. Il avait lu ça avec son avocat, Paul. C'est avec cette intention-là qu'on est allé à la guerre des ratings. Alors, tous ceux qui ont fait l'erreur de regarder la demi-heure de SmackDown, ben c'est comme ça qu'ils ont été récompensés. Alors, on les salue. J'espère que si vous faites partie de ce groupe de personnes qui ont regardé SmackDown, j'espère que vous vous êtes tout de suite rattrapé et que vous allez voir Rampage. Je vous le souhaite. Alors, j'ai donné 2,25 $ à ce SmackDown. Quelle déception, pouette-pouette. Un excellent match, un autre bon match, trois bons matchs, mettons. Mais, Colin, beaucoup trop de temps à essayer de... étirer pour faire 2h30 alors qu'on avait peut-être du stock pour 1h15. Alors, c'est ça que ça donne. C'est malheureux, hein? Mais c'est comme ça. Donc, si vous nous regardez en vidéo, c'est la fin de cette vidéo de SmackDown, mais vous avez la deuxième partie qui débute à l'instant. Vous n'avez qu'à suivre le lien qui apparaît. Et vous voulez savoir, Becky Lynch, contre qui elle avait perdu? C'était en 2018, le 8 mai 2018, c'était contre Mandy Rose. Et oui, Mandy Rose, qui était la dernière à avoir battu Becky Lynch. Belle séquence qui se finit maintenant. Pour contrecarrer les plans de la WWE, Tony Khan avait décidé de créer un buy-in disponible sur YouTube. Alors, j'allais pas en parler nécessairement du buy-in, mais... je n'ai pas le choix de le faire de par ce qu'on nous a servi. Mais je vais le faire dans l'ordre dans lequel je l'ai consommé. Donc, j'ai regardé Rampage en premier et par la suite, j'ai regardé le buy-in. Et je pense que c'est la meilleure façon de consommer cet épisode de Rampage. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça a été fantastique. Ça a été absolument fantastique. C'est un péché que le buy-in ait été disponible gratuitement pour tous. En même temps, je dis ça, je dis rien, parce que dans le fond, c'est le fun qu'on puisse tous en profiter. Puis de toute façon, c'était à TV. Puis garde, hey, hein, tu sais. Mais c'était de toute beauté, ce buy-in. On va en reparler parce que ça va être la finale de la révision des comptes de ce AEW Rampage. Le 10e épisode de Rampage, oui. Alors passons donc à cette dixième... Oui, ce dixième épisode, comme je l'ai dit, de Rampage du James L. Knight Center à Miami, en Floride. C'est Excalibur, Taz et Ricky Starks qui étaient aux commentaires. Bon travail! J'ai trouvé Taz plus posé qu'à l'habitude, moins heel, et même chose pour Ricky Starks. Donc, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un bon travail, puisque le premier match, c'était quand même Matt Sydal qui affrontait CM Punk. CM Punk qui avait été en rivalité contre Team Taz, mais on n'a pas joué là-dessus, on est resté plutôt neutre dans ce combat-là. Donc, je trouve qu'ils ont fait un bon travail, comme pour le reste de la carte. La foule déchaînée, incroyablement déchaînée pour l'arrivée de CM Punk. Je me demandais un peu pourquoi, mais en même temps, le James L. Knight Center, probablement un peu plus petit dans sa configuration, moins de monde, mais visiblement plus bruyant, très intense. Grosse différence avec les Rampage habituels ou des dernières semaines où c'était enregistré en même temps que Dynamite. C'est des gros shows qui sont lourds, qui sont émotifs, où les fans sont amenés sur des montagnes russes. C'est difficile de garder le rythme, c'est difficile d'être aussi enthousiaste. Là, ce soir, les gens, chapeau, ils étaient déchaînés. C'est peut-être plus difficile d'avoir, financièrement, techniquement, d'avoir des épisodes deux fois semaine, peut-être dans des villes différentes, etc., mais aujourd'hui, il y avait une grosse différence avec le fait que Rampage était en direct. Ça se sentait, la foule était énormément dedans. Dans un premier match de toute beauté. Un match de toute beauté entre CM Punk et Matt Sydal. Très technique. Ça faisait une dizaine d'années qu'ils ne s'étaient pas affrontés. Je pense que la dernière fois, c'était pour le titre de la WWE, si ma mémoire est bonne. Donc... un excellent match, très technique au départ. Matt Sydal qui prenait rapidement les devants, essayait un peu de jouer avec CM Punk pour essayer justement de l'épuiser. Très technique, beaucoup de renversements, etc. CM Punk qui, lui, ben, se faisait prendre un peu au rythme de la foule qui, même si Matt Sydal était un Floridien, était 100% derrière CM Punk. Donc, il jouait un peu avec la foule, faisait des body slams, écoutait. Donc, il s'est fait prendre aussi à ce jeu-là. Ça a permis même à Sydal de reprendre les devants à cause du fait que Punk était un peu dérangé par la foule, essayait de jouer un peu avec eux, etc. Mais c'était un excellent, excellent match. Il y a eu un coup de genou au visage et CM Punk, qui a reçu le coup, après, au moment du tombé, une chance que l'arbitre savait que CM Punk n'allait pas subir le tombé à ce moment-là parce que il a relevé l'épaule vraiment, vraiment. 2 et 9 dixièmes. Mais il n'y a pas eu de 3 là-dessus, mais c'est passé très, très proche. Finalement, Sydal et Punk se sont échangés les prises de soumission, les tentatives et tout ça. Il y a eu son Lightning Spiral, de Matt Sydal. CM Punk a encore une fois réussi à relever les épaules, mais à la fin, au moment où Sydal a voulu sauter sur CM Punk, ben, il l'a saisi, lui a appliqué son GTS un peu sorti de nulle part, et c'est comme ça qu'il a remporté le match. Et à la fin, les deux se sont fait une poignée de main, gros câlin, beaucoup de respect entre les deux hommes. Donc un très très beau match de lutte. J'ai donné la note de 3,75$ à cet affrontement entre CM Punk et Matt Sydal. Les gens étaient dedans, les gens ils ont tout acheté. Donc, mais on va comprendre pourquoi un peu plus tard. C'était un très 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 beau match pour commencer cette édition de Rampage. On a suivi avec l'affrontement entre Ruby Soho et The Bunny. Aussi, un match qui a été quand même assez intense. Même si dans ce match-là, naturellement, la foule avait plus de difficultés à embarquer. Mais quand même, j'ai trouvé que De Bonny et Ruby ont donné un match très intense. Ils ont livré à peu près tout ce qu'il y avait. Bonny qui focalisait beaucoup sur le coup de Ruby Soho. Finalement, ben, avec un flatliner à l'extérieur, Ruby a repris le dessus. Il y a eu ensuite un German suplex alors que Ruby était perché dans le coin sur la deuxième corde. Elle lui a donné un kick entre les jambes d'en face et après lui a fait un German suplex. Compte de deux, très, 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 très proche, mais très, très bien fait. Et finalement, ben, à force d'échange, finalement, c'est Ruby qui a réussi à se glisser et faire un backslide. Donc, presque une victoire roll-up pour Ruby Soho qui s'en est sorti face à De Bonny. Donc, un très bon match. Et puis, Ruby a quitté le ring rapidement après sa victoire. Mais là, sur la rampe, boum, elle s'est fait frapper dans le dos par Penelope Ford qui, finalement, a ramené Ruby Soho dans le ring et en compagnie de De Bonny qui la tenait très serrée par derrière. Penelope Ford a sorti un point américain pour sacrer un bon coup et knocker Ruby Soho. Donc, il y aura probablement un match bientôt entre Penelope Ford et Ruby Soho. Donc, j'ai donné la note de 3,25$ à ce match. Quand même un bon match que j'ai mis aussi dans la colonne des actifs. On nous a annoncé ce qu'on aurait pour Dynamite. Dynamite qui sera présenté demain, si vous écoutez aujourd'hui, donc samedi, le 16 octobre. Ça va être comme ça pour les deux prochains samedis. Donc, les deux éditions habituelles de mercredi repoussées au samedi. Nous, à la révision des comptes, on fera quand même la révision de Dynamite les mercredis soirs. Peut-être pas à 22h, mais c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous saurez exactement quand est-ce qu'on tombe en direct pour venir commenter, jaser avec nous de cet épisode de Dynamite qui aura lieu donc le 16 octobre. Il y aura Dante Martin qui va affronter Malakai Black. On va parler du World Eliminator Bracket Tournament. Et il y aura Moxley contre Utah, Kiera Hogan qui va affronter Penelope Ford et Bobby Fish qui affrontera Bryan Danielson aussi. Et on a aussi annoncé pour Rampage de la semaine prochaine le bracket qui sera déterminé pour le TBS Tournament, donc la nouvelle ceinture féminine, et Andrade contre Pac, le deuxième affrontement entre les deux, tout récent. Ce premier affrontement qui date du mois de septembre. Donc, on aura un rematch entre les deux à Rampage. Le dernier match de la soirée, c'était Inner Circle qui affrontait Junior Dos Santos dans son premier match, ses débuts à AEW en compagnie de Man of the Year. Donc, Dos Santos avait un look plutôt boxeur de ruelle, mais un peu cheapette. Il y avait des shorts bleus avec des bottes qui avaient l'air de des bas blancs dans des sandales. C'était pas réussi. Mettons, le look de Junior Dos Santos, ça aurait mérité une grande contravention de style. Ça faisait pas tellement lutteur professionnel, son affaire. Mais Junior Dos Santos avait l'air quand même très, très, très imposant. Ne s'en laissait pas imposer par un Jack Hager, par exemple, était très, très gros dans le ring. Je l'ai trouvé correct au niveau de ses attaques. C'était pas parfait. Je ne sais pas si on a essayé de jouer avec le fait qu'il était moins familier avec la lutte, avec certaines parties des règlements, dont le fait qu'un lutteur qui se retrouve dans les cordes, on ne peut plus le frapper à ce moment-là. Donc, il a joué un peu avec ça. Il ne savait pas trop exactement quand faire le tomber, etc. Donc, on a joué un petit peu avec cet aspect-là avec Junior Dos Santos. Mais ça a été un très bon match. C'est Jericho qui a reçu le plus les attaques de Man of the Year, aussi de Junior Dos Santos. Ça a commencé parce que Jericho a rapidement glissé en dessous des câbles pour aller confronter Jorge Masvidal qui était à l'extérieur en compagnie de Dan Lambert pour encourager le trio. Donc, c'est comme ça que Jericho a comme un peu perdu le focus et puis a été dominé par la suite. Mais ça a permis un excellent, un des très beaux hot tags à Sammy Guevara qui était tout feu, tout flamme, Spanish Fly. Il a été une séquence là, incroyable de moves consécutifs. Finalement, vers la fin du match, Hager, qui se battait avec Junior Dos Santos, a réussi à le faire passer au travers d'une table à l'extérieur. Ensuite, il y a Scorpio qui a raté son TKO, qui est tombé dans les Walls of Jericho. Et là, on pensait que peut-être Scorpio Sky allait abandonner. Mais là, sais-tu pas, Paige Van Zandt, qui a distrait l'arbitre pour aller permettre à Jorge Masvidal de rentrer dans le ring et faire son running knees sur Jericho pour permettre à Scorpio, finalement, de se retourner, faire le tomber sur Inner Circle et permettre au Man of the Year et Junior Dos Santos, donc American Top Team, de l'emporter. Par la suite, ben là, tout le reste de American Top Team est arrivé dans le ring pour se mettre à tapocher sur Jericho, un peu sur Guevara, Jake Hager, puis tout. Et finalement, ben, c'est Ortiz et Santana qui sont arrivés à la rescousse et pour reformer, encore une fois, le Inner Circle, se retrouver tous ensemble dans le ring. Donc, c'est eux qui sont venus sauver la mise. Donc, un très bon match, très, très bon match qui a été quand même assez long, un bon 15 minutes. Donc, une belle confrontation, 3 contre 3, des beaux enchaînements. Jericho a bien vendu, Guevara a été tout feu, tout flamme. C'est intéressant, Santos, Hager, qui sont allés d'un style un peu plus MMA. C'était quand même avec de la lutte, avec certains moves de lutte. C'était pas parfait, mais c'était très divertissant. Pour terminer ce Rampage, j'ai donné la note de 4,25$ à ce match que j'ai trouvé très bon. Alors là, ben, je suis allé regarder le buy-in. Et comme je vous dis, c'était la meilleure façon, je pense, de le faire. Parce que oui, le buy-in, c'était pour nous amener vers Rampage. Mais en même temps, Rampage pouvait très bien nous amener au buy-in. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé durant ce buy-in. J'en reviens pas encore. Je suis comme ça. Le premier match du buy-in, c'était Ty Conti qui affrontait Santana Garrett. Santana Garrett qui faisait un retour, je pense. Ça faisait un certain bout de temps qu'elle n'avait pas lutté à All Elite Wrestling. Donc, dans un match de 4 minutes 42, un bon match. Rien de très spectaculaire. Sinon que Santana Garrett est capable de faire le move de gymnastique de bien meilleure façon que Dana Brooke. Alors, c'est malheureux pour elle, mais pauvre Dana, elle a des croûtes à manger. Alors, dans un très bon match, c'est Ty Conti qui l'a emporté en faisant ses running boots jusqu'à appliquer son DD Ty pour la victoire. Donc, match classique, un bon 4 minutes et un 3$ sur 5. Pas le meilleur match, mais un match qui a fait son travail pour commencer le buy-in. Par la suite, on avait un match très intéressant entre Lee Moriarty et Bobby Fish. Moriarty, qui, moi, je ne connaissais pas du tout, 26 ans, qui a je ne sais pas exactement le personnage qu'il veut nous jouer, mais bon, c'est un gars très athlétique, très, très efficace dans le ring. Peut-être que c'est ça. Il a sa personnalité peut-être à travailler, mais point de vue athlétique, point de vue les moves, les prises qu'il fait, très, très, très efficace dans son travail. C'était un match comme un vrai combat. Les deux, très striker, ça a été très, très intense pendant 7 minutes 57. Donc, Bobby Fish qui a terminé le travail avec un exploder dans les cordes qui n'avait pas l'air du tout de faire du bien et a terminé avec son knockout shot, son coup de pied circulaire près de la tempe. Donc, un très, très bon match, très intense. Naturellement, la foule a peut-être un peu de difficulté à embarquer, mais le match était quand même très, très bien fait. Donc, très technique, très, très intéressant. J'ai donné la note de 3,25$ sur 5 à ce match. Bon match entre les deux, puis je pense que Lee Moriarty va sûrement monter dans les échelons. Et il y a un bel avenir devant lui. Donc, c'était bien de le faire affronter Bobby Fish. Lui aussi, très technique, très striker et tout. Donc, bon match-up pour ces deux hommes. Ce qui nous mène au dernier match. Et moi, je l'ai vu en dernier parce que ce match-là, ça a beau avoir été le dernier match du buy-in. C'était la finale. C'était... Je ne sais même pas comment décrire ça tellement c'était de toute beauté. Une guerre, mais fabuleuse, entre Minoru Suzuki, de ses 53 ans légendaire, face à Bryan Danielson. Je vais vous résumer ce que Taz a dit pendant ce match qui vous fait comprendre exactement ce que vous avez besoin de comprendre pour ce match-là. Si vous êtes en train de regarder la télé et que vous ne regardez pas YouTube, you're a dumbass. Et il l'a dit avec toute l'intonation de you're a dumbass. Parce que quel match! 19 minutes 18 de deux bonhommes qui se sont rentrés dedans à coup de tout ce que vous voulez. Donc, taloche, à pouf, coup de pied. Les deux, pendant une grosse partie de ce match-là, c'était « je te rentre dedans, tu me rentres dedans, t'es-tu capable d'en prendre? Oui, je suis capable d'en prendre. » C'était de toute beauté. Ils ont commencé le match très technique, avec les prises, les mains se renversées. Puis à un moment donné, là, ils ont décidé de couper ça. Et là, c'était comme « ah ouais, donne-moi ton coup de pied, paf! » Et là, ben, ce qui était de toute beauté, puis qui a rendu ce match-là aussi magique, c'est que la foule était à 100% investie dans ce match-là, jusqu'à s'arrêter, comprendre que quand c'était le moment des chops et des coups de pied au niveau du chest, là, on entendait le monde dire « puis on faisait pas de bruit. Puis « clow! » Les coups de pied, les coups de claque dans la face. Et un des moments forts, c'est quand Suzuki a frappé Daniel Bryan avec un coup d'avant-bras, paf! Et Bryan est tombé au sol. Ça a été de toute beauté. Ça a été comme ça pendant 19 minutes. Les deux se sont rentrés dedans. Et c'était vraiment à savoir qui allait être le plus tough, qui allait être celui capable d'en prendre. Et ça a été, je veux dire, il faut aller voir ça. C'est gratuit sur YouTube. Garochez-vous pour aller voir ce match-là. Ça s'est terminé alors que les deux couraient dans les cordes. Bryan qui a comme évité est parti dans l'autre direction et s'est lancé avec son running knee pour surprendre Suzuki et mettre fin à carrément une guerre, carrément deux gars qui voulaient se rentrer dedans, voulaient prouver qu'ils étaient plus tough l'un que l'autre. Et c'était juste fantastique, de toute beauté. Un gros bravo. Donc, je peux pas faire autrement. J'ai donné 5$ à ce match-là. Tu peux pas donner autre chose. C'était de toute beauté du début à la fin. Deux légendes. Déjà, on peut déjà qualifier de Bryan Danielson de légende de la lutte, je pense. Ils se sont rentrés dedans. Ils se sont affrontés. Ils ont exactement donné ce qu'ils voulaient donner. Et à court de mots, c'était juste fantastique, magique. Allez voir ça. C'est le match de la soirée. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Bryan Danielson, à chaque fois maintenant qu'il est à All Elite, depuis qu'il est à All Elite, je veux dire, ses combats, c'est quasiment toujours des classiques instantanés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que bravo? Bravo à Bryan Danielson pour tout ce qu'il a réussi à date. C'est un véritable succès à All Elite. Quoi dire de plus? Que c'est incroyable que ce match-là soit gratuit sur YouTube. Il faut vraiment aller voir ça. Donc, c'est comme ça que se termine cette super révision des comptes. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir téléchargé le podcast. La semaine prochaine, on a une grosse semaine devant nous parce que à Raw, c'est la finale pour savoir qui va affronter Finn Balor pour déterminer le prochain roi. Il y aura aussi du côté des femmes le match entre Shayna Baszler et Doudrop pour déterminer qui représentera Raw pour le tournoi de Queen's Crown. Mais surtout, on aura de la visite parce que, ben oui, Cody, des Rebuts du Catch, va être en ma compagnie. Donc, il va faire le sacrifice de regarder Raw en plein milieu de la nuit pour pouvoir commenter avec vous en direct ce lundi. Donc, ça va être super intéressant de faire cette révision de Raw. Puis, ça va nous mener, parce que c'est le Go Home Show. C'est rare que Raw est un Go Home Show, mais là, dans ce cas-ci, c'est le cas. Ça va être le Go Home Show de Crown Jewel. Et puis, nous, on va se retrouver sur la chaîne des Rebuts du Catch pour faire la review. Je ne sais même pas comment on va déterminer ça. Une review royale de Crown Jewel en Arabie Saoudite qui va se dérouler jeudi prochain. Donc, ça va être sur la chaîne des Rebuts du Catch. Donc, grosse semaine qui nous attend. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis, comme pour ceux qui regardent en vidéo, regardez mon magnifique, magnifique chandail que j'ai reçu. Ma douce qui m'a offert ça pour ma fête. Ben oui, ma fête qui était au mois de septembre, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas facile, hein? La production de t-shirts de CM Punk, c'est pas facile. Alors, magnifique chandail de CM Punk que j'ai reçu finalement aujourd'hui, juste avant de pouvoir faire cette magnifique révision des comptes, prouvant, hors de tout doute, que c'est elle la meilleure épouse in the world. Bisous. Bonne fin de semaine, tout le monde. Et on se revoit lundi pour la révision des comptes de Raw.
Benny et Elite, y'a depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. Benny et Elite, y'a depuis le Patreon. Benny et Elite, c'est la révision des comptes. C'est la révision.